France Culture.
Les nuits de France Culture.
Un poète apatride qui s'en va à la guerre pour son pays d'adoption. Voilà le singulier destin de Guillaume Apollinaire, qui s'y reprend à deux fois en 1914 avant de pouvoir rejoindre les rangs de l'armée française. Enfin naturalisé en 1916, il combat en Champagne d'abord, puis dans l'Aisne, où il est blessé à la tempe par un éclat d'obus. Après une longue convalescence, il rentre à Paris grandement affaibli et succombe en novembre 1918 à la grippe espagnole, qui ne l'aurait sans doute pas emporté sans les graves séquelles qu'en eut la guerre, sur son corps et sur son esprit. Apollinaire n'est donc pas qu'un enchanteur, qu'un poète de génie, mais aussi un soldat qui a entretenu pendant la guerre une correspondance soutenue avec son amante de l'époque, Lou. Cette précieuse correspondance, poétique à souhait, est aussi un document historique édifiant. Il y décrit le quotidien des tranchées, l'omniprésence de la mort et la menace constante des obus ennemis. Si Apollinaire se fend de quelques vers qui peuvent prêter à confusion, par exemple quand il écrit dans « L'adieu au cavalier », extrait de Calligramme « Ah Dieu, que la guerre est jolie, avec ses chants, ses longs loisirs !» il ne procède pas à une poétisation outrancière de la guerre, tout au plus à une mise à distance, ou une légèreté feinte, forcée. Une lettre écrite à sa fiancée Madeleine Pagès, le 13 décembre 1915, démontre la conscience aiguë qu'avait l'auteur d'Alcool de la gravité de ce qu'il vivait. « Je sens maintenant toute l'horreur de cette guerre secrète sans stratégie, mais dont les stratagèmes sont épouvantables et atroces. Les souffrances de l'infanterie sont au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer, surtout en cette saison et dans cette sale région. » Cette émission de Michel Descaudin, intitulée « Un poète au front étoilé, Guillaume Apollinaire sur le front de Verdun », rend hommage à ce poète soldat, en regroupant poèmes, extraits de correspondances et témoignages de celles et ceux qui le connurent. Au sein du bruit et de la fureur de la guerre, la voix poétique d'un être magique a su survivre, non sans conséquences désastreuses sur son destin tragique. Une émission diffusée pour la première fois le 26 juin 1966.
Mars 1916, au bois des Buttes, près de Berry-au-Bac, sur le front de Verdun qui vient de s'enflammer. Le secteur est assez calme, seuls quelques échanges de coups de feu, de brefs dialogues d'artillerie, des éclatements de mortiers brisent le silence. Les hommes du 96e régiment d'infanterie sont arrivés sur ces positions depuis 3 jours. Ils veillent au créneau, où se reposent, où besognent, et, brutalement,
mon lieutenant, vous êtes blessé.
Je ne sais pas, j'ai entendu l'éclatement, je ne me croyais pas touché. Et j'allais reprendre ma lecture quand tout à coup mon sang s'est mis à pisser.
Oh, votre livre en est tout couvert. C'est un éclat qui a dû vous atteindre. Heureusement, votre casque vous a protégé. Ce ne sera pas grave. On va vous soigner à l'ambulance et vous en tirer avec une bonne petite convalescence.
La blessure était grave. De l'ambulance de campagne 155, l'officier fut transféré à l'hôpital de Château-Thierry, puis au Val-de-Grâce, enfin à l'hôpital italien du Quai d'Orsay, où il dut être trépané 2 fois. Il s'appelait Guillaume de Kostrovitsky, mais était plus connu sous son pseudonyme littéraire de Guillaume Apollinaire. À la déclaration de la guerre, Apollinaire avait 34 ans. Né à Rome, d'une mère polonaise, de cette partie de la Pologne alors sous la domination des tsars, il aurait pu rester à l'abri du conflit et, comme le lui proposèrent certains de ses amis, trouver refuge dans une terre neutre en Suisse ou en Espagne. Mais, français d'esprit, de cœur, de culture, il pensait que son devoir était de partager le sort de ses compatriotes d'élection. Et après diverses démarches, il signa un engagement à Nice, engagement qui fit de l'écrivain Guillaume Apollinaire le canonnier Guillaume de Kostrovitsky, incorporé au 38e régiment d'artillerie à Nîmes. De cette vie nouvelle qu'il exalte, de nombreuses lettres envoyées à des amis rendent témoignage. Ainsi, Jeanne Mortier reçoit du poète cette missive.
Nîmes, 18 décembre 1914. Ma chère amie, ma dernière lettre puis ma carte portrait vous ont montré que je n'étais pas trop mal, ni moralement ni physiquement. Toutefois, je couche à la chambrée comme tout le monde. Je suis le peloton, surcroît de travail. Je ne m'en plains pas, au contraire. Et la visite inespérée que j'ai eue ici m'a donné tous les courages. Le cheval ne m'a pas blessée encore. Nous sommes sortis plusieurs fois par des chemins impossibles. Je trotte toute la matinée. Et le trot, c'est paraît-il le plus dur et le plus difficile du cheval. J'avoue que ce n'est pas toujours sans froid ce que j'ai accompli sans étrier ou trot, les mouvements d'assouplissement qu'on nous commande. Se coucher complètement sur le cheval au trot, les bras ballants, la tête sur la croupe, se retourner complètement pour toucher avec la main droite la croupe à gauche, et inversement. Évidemment, c'est quelque chose, et l'on manque se fiche par terre quand on n'est pas habitué. Et dans les descentes pierreuses, dans les ruisseaux, dans les... Je n'ai pas toujours été sûre de ne pas tomber, mais j'ai surmonté tout cela. Je suis, je crois, plus vigoureux déjà. Il me semble que je ne maigris même pas. Pour ce qui est de blessé, je n'ai pas encore blessé, et je me sens très bien en descendant de cheval. Le plus embêtant est de le bouchonner, de le masser, de le laver. Je ne suis pas habituée à cette besogne de garçon d'écurie, mais je la fais de mon mieux, comme ce qui est de seller et brider le cheval. Au fond, je ne déteste pas ça du tout. Les gardes de nuit sont embêtantes, mais ça vous trempe et vous prépare la guerre. D'ailleurs, ne croyez pas que tous les nouveaux soldats soient aussi rondement menés. Plusieurs entrées avec moi n'ont encore absolument rien fait sur tous les servants. Moi, dès mon arrivée, j'ai trimé, étant élève brigadier et faisant à la fois les classes du conducteur et du servant. Le canon m'intéresse infiniment. Il y a ici de vieux auxiliaires reversés dans le service armé, mais ils ne sont pas dans nos batteries de jeunes gens. J'en ai vu que l'on exerçait doucement la marche cadencée aujourd'hui. Ils étaient en civil, en par-dessus ou en côte. Je songeais à la ronde des prisonniers de Van Gogh. Hier, on nous a menés dans la campagne voir des tirs réels de canons, c'est épatant. Mais le plus chic, ce sont les sorties à cheval. On fume, on domine la foule, on respire. On sent que l'on est quelque chose et que l'on est la force sur laquelle repose la liberté d'une nation et son existence même. Ça, ça vaut rudement la peine d'être militaire pour le sentir. Dans ma chambre, les trois quarts sont des charretiers ou des cochers nissards. Et j'aime bien ces camarades, plus même que mes copains chics du peloton. Je vous embrasse, Guillaume.
Si accaparé qu'il soit par son instruction militaire, le canonnier n'oublie cependant pas la poésie. Et nous trouvons dans Calligramme de nombreuses pièces écrites à Nîmes, précisément celles qui portent ce titre.
Je me suis engagé sous le plus beau des cieux, dans Nice, la marine au nom victorieux. Perdu parmi 900 conducteurs anonymes, je suis un charretier du neuf charroi de Nîmes. L'amour dit « reste ici », mais là-bas les obus épousent ardemment et sans cesse les buts. J'attends que le printemps commande que s'en aille vers le nord glorieux l'intrépide bleusaille. Les trois servants assis dodelinent leur front où brillent leurs yeux clairs comme mes éperons. Un bel après-midi de garde à l'écurie, j'entends sonner les trompettes d'artillerie. J'admire la gaieté de ce détachement qui va rejoindre au front notre beau régiment. Le territorial se mange une salade à l'anchois en parlant de sa femme malade. Quatre pointeurs fixaient les bulles des niveaux qui remuaient, ainsi que les yeux des chevaux. Le bon chanteur Giraud nous chante après 9 heures un grand air d'opéra. Toi, l'écoutant, tu pleures. Je flatte de la main le petit canon gris, gris comme l'eau de Seine, et je songe à Paris. Mais ce pâle blessé m'a dit à la cantine des obus dans la nuit la splendeur argentine. Je mâche lentement ma portion de bœuf, je me promène seul le soir de 5 à 9. Je selle mon cheval, nous battons la campagne. Je te salue, au loin, belle rose, au Tourmagne.
Cette allégresse du poète, cette allégresse de l'épistolier, n'ont pas seulement des causes militaires et patriotiques. À Nîmes, Apollinaire avait été rejoint par une jeune femme qui, à Nice, n'avait pas répondu à son amour. C'est Lou, Louise de Coligny-Châtillon. À Nîmes même, le poète Georges Martin est allé pour nous à la recherche des souvenirs d'Apollinaire et de Lou.
Guillaume Apollinaire, vous le savez, à la déclaration de la guerre de 1914, avait quitté Paris pour venir se reposer à Nice. À Nice, où il était attiré, d'un côté certainement par le climat et l'air bleu et la Méditerranée, mais aussi par la comtesse Louise de Coligny, et qui évidemment l'intéressait au plus haut point. Il est resté quelque temps à Nice, et c'est de Nice d'ailleurs qu'il a signé son bulletin d'engagement pour la guerre. Il a été affecté au 38e régiment d'artillerie à Nîmes et il est arrivé en décembre 1914 au régiment d'artillerie de Nîmes où il devait faire sa période jusqu'à son départ pour le front. Vous pourriez me demander les raisons pour lesquelles il tenait essentiellement à louer une chambre à Nîmes alors que beaucoup de militaires ne se soucient pas de cette chose-là, surtout quand c'est pour un séjour relativement court comme l'était celui d'Apollinaire. C'était pour attirer Louise de Coligny à Nîmes. Il savait très bien que Louise de Coligny serait peut-être gênée de descendre dans un hôtel et il voulait à tout prix la garder le plus longtemps possible auprès de lui. Et voilà les raisons pour lesquelles il cherchait des chambres dans Nîmes. Il avait trouvé celle-là et il était très heureux quand il a loué cette chambre dans l'enclos d'Amiens, dans la rue d'Abiche. Il était très heureux de penser que cette chambre plairait beaucoup à sa compagne et qu'ainsi, pendant 2-3 mois, il pourrait vivre avec sa chère Lou dans la ville romaine.
Ses classes terminées, Apollinaire demande à partir pour le front. C'est le désir de recevoir des galons qui l'entraîne. C'est aussi celui d'échapper à un pays qui commence à lui peser. En effet, Lou l'a abandonné. Et s'il reste en correspondance avec la jeune femme, il n'a plus aucun espoir de la voir rester auprès de lui. C'est cependant à elle qu'il envoie, sous forme d'une épître rimée, ses premières impressions de voyageurs en marche vers le nord et le front.
Malou, je coucherai ce soir dans les tranchées qui, près de nos canons, ont été piochées. C'est à 12 kilomètres d'ici que sont ces trous où, dans mon manteau couleur d'horizon, je descendrai, tandis qu'éclatent les marmites, pour y vivre parmi nos soldats troglodytes. Le train s'arrêtait à Mourmelon le Petit. Je suis arrivé gai comme j'étais parti. Nous irons tout à l'heure à notre batterie. En ce moment, je suis parmi l'infanterie. Il siffle des obus dans le ciel gris du nord. Personne, cependant, n'envisage la mort. Et nous vivrons ainsi sur les premières lignes. J'y chanterai tes bras comme l'école des cygnes. J'y chanterai tes seins d'une déesse digne. Le lilas va fleurir, je chanterai tes yeux, où danse tout un cœur d'angelot gracieux. Le lilas va fleurir, ô printemps sérieux. Mon cœur flambe pour toi comme une cathédrale, et de l'immense amour sonne la générale. Pauvre cœur, pauvre amour, daigne écouter le râle qui monte de ma vie à ta grande beauté. Je t'envoie un obus plein de fidélité, et que t'atteigne, ô loup, mon baiser éclaté. Mes souvenirs, ce sont ces plaines éternelles que Virgule, ô loup, les sinistres corbeaux. L'avion de l'amour a refermé ses ailes, et partout, à la ronde, on trouve des tombeaux. Et ne me crois pas triste, et ni surtout morose. Malgré toi, malgré tout, je vois la vie en rose. Je sais comment reprendre un jour mon petit loup, fidèle comme un dogue avec des dents de loup. Je suis ainsi, mon loup, mais plus tenace encore que n'est un aigle alpin sur le corps qu'il dévore. 4 jours de voyage et je suis fatigué, mais que je suis content d'être parti de Nîmes. Aussi, mon loup chéri, je suis gai, et je ris de bonheur en t'écrivant ces rimes. Cette boue est atroce au chemin des trempés. Les yeux des fantassins ont des lueurs navrantes. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Les amants vont mourir, aimantes, les amantes. J'entends le vent gémir dans les sombres sapins. Puis, je m'enterrerai dans la mélancolie. Oh, ma loup, tes grands yeux étaient mes seuls copains. N'ai-je pas tout perdu puisque mon loup m'oublie? 1915, année où tant d'hommes sont morts. Va-t'en, va-t'en, va-t'en aux enfers des furies. Jouons, jouons aux dés, les dés marquent les sorts. J'entends jouer aux dés les deux artilleries.
Gaieté et mélancolie, telles seront les dominantes de la vie d'Apollinaire sur le front d'Argonne où est stationnée son unité. Gaieté, mélancolie, due à ses activités, due à sa solitude également. Il est agent de liaison, ce qui lui permet de quitter chaque jour son unité pour d'assez longues chevauchées, mais il est seul également au milieu d'hommes qu'il aime, mais qui le comprennent mal, et sa correspondance reste d'une abondance extraordinaire. Tous ses amis reçoivent ses lettres et lui répondent. Un Louis de Gonzague, Frick, par exemple, se plaît à jouer avec lui à la correspondance versifiée et lui envoie de petits quatrains tels que ceci.
Shrapnels et percutants, ces sinistres marmites sont maintenant tes jeux et tes constructions, Guillaume Apollinaire, au servant des borites qui forgent le poème en forme de canon. L'artillerie est l'art de mesurer les angles. Donne-moi ton portrait, Guillaume Apollinaire, pour le 13 mars, jour de mon anniversaire, en artilleur, sur le grand cheval que tu sangles.
Ou encore d'André Rouvert, il reçoit ce billet rimé qui lui donne des nouvelles de son appartement du 202 boulevard Saint-Germain.
Je suis passé devant chez toi, ami. J'ai aperçu ton toit. Ce balcon duquel on distingue, tandis qu'on marche sur son zinc, nuages, fenêtres, cheminées, des rues jusqu'aux Champs-Élysées, le boule Saint-Germe, tes voisines que les éplins assassinent, plutôt voudraient t'assassiner, car n'a pas souffert ton quartier. Chez toi les pièces j'imagine, et mon souvenir les dessine, de la cuisine à l'entrée, ta chambre et la salle à manger, cette suite mystérieuse de réduits, pour une amoureuse on dirait composée exprès. Après, on atteint au sommet. On voit bien que le ciel approche, à chaque pas, dans chaque encoche de l'escalier en tire-bouchon. Ton cabinet près du balcon, on y arrive, on s'y repose. Matisse n'est ici la chose la seule originale, au vrai. À voir les autres, on se complaît. Après, tu ouvres. Qu'elle est belle à son sommet, ta citadelle. Ce balcon, tu le fleuriras à nouveau. Tu m'inviteras le soir pour y fumer la pipe, écoutant ton récit épique. Si je persiste, vieil ami, sous la toise à t'écrire ainsi, c'est que par ailleurs je chantonne et trouve la manière bonne.
Apollinaire est émerveillé par la guerre. tout en reconnaissant ses horreurs. Cet éternel amoureux des spectacles nouveaux est plein d'admiration devant les dialogues d'artillerie, devant les fusées qui éclairent le ciel, devant cette vie toute neuve et pleine d'aventures qu'est la sienne. Sa poésie, bien sûr, s'en ressent, et dans un admirable poème comme « La nuit d'avril 1915 », on voit se mêler à la fois cet émerveillement et toute la mélancolie de l'homme isolé des siens.
Le ciel est étoilé par les obus des boches. La forêt merveilleuse où je vis donne un bal. La mitrailleuse joue un air à triple croche. Mais avez-vous le mot? Eh oui, le mot fatal. Au créneau, laissez là les pioches. Comme un astre éperdu qui cherche ses saisons, cœur, obus éclaté, tu sifflais ta romance. Et tes mille soleils ont vidé les caissons que les dieux de mes yeux remplissent en silence. Nous vous aimons, ô vie, et nous vous agaçons. Les obus miaulaient un amour à mourir, un amour qui se meurt est plus doux que les autres. Ton souffle nage au fleuve où le sang va tarir. Les obus miaulaient. Entends chanter les nôtres, pourpre amour salué par ceux qui vont périr. Le printemps tout mouillé, la veilleuse, l'attaque. Il pleut, mon âme, il pleut, mais il pleut des yeux morts. Ulysse, que de jours pour rentrer dans Ithaque. Couche-toi sur la paille et songe un beau remords qui, pur effet de l'art, soit aphrodisiaque. Mais... orgue, au fais-tu de la paille où tu dors, l'hymne de l'avenir est paradisiaque.
À ses correspondants, deux noms de femmes sont venus s'ajouter. L'un est celui d'une jeune poétesse de Montpellier, Jeanne-Yves Blanc. Elle a conservé le souvenir du poète et Frédéric-Jacques Temple est allé à Montpellier, où elle habite toujours, l'interroger pour nous.
Jeanne-Yves Blanc, vous avez été la marraine de guerre d'Apollinaire. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?
Cela signifie un très beau souvenir d'une réussite dans ma petite carrière littéraire et une marque de très grande amitié.
Comment avez-vous été amené à entrer en rapport avec Guillaume Apollinaire ?
Guillaume Apollinaire, volontaire, était au 19e à Nîmes, ou au 38e, je ne me souviens plus. Et il avait comme camarade un chartiste, Émile Léonard, que malheureusement l'université et l'institut viennent de perdre. Et comme Apollinaire, à chaque fois qu'un camarade partait pour le front, lui faisait un quatrain, Léonard lui dit « Et vous, pauvre costaud, vous n'aurez point de quatrain. Je vais demander à une amie de ma sœur, qui est poétesse, de vous en faire un. » Et à une permission, il vint ici et il me demanda si je voulais faire cette gentillesse à un homme que nous considérions déjà comme un génie. Et naturellement, je l'ai fait avec plaisir. C'est une pièce de circonstance, elle ne vaut rien, mais enfin, elle fit plaisir à Apollinaire, c'était l'essentiel.
Est-ce que cela vous ennuierait de nous le lire ?
Vous allez compléter la geste de vaillance des héros polonais au sol de nos aïeux, emportés pour braver les destins ténébreux ce quatrain espérant d'une femme de France.
Alors Apollinaire, je crois, vous a répondu. Oh, et que vous a-t-il répondu ?
Bien qu'il me vienne à nous, votre quatrain d'avril m'a gardé de tout mal et de toute blessure. Votre douceur me suit durant mon aventure au long de cet an sombre, ainsi que fut l'an 1000. Je vous remercierai s'il se peut, je l'assure, quand nous aurons vaincu le boche lâche et vil dont la vertu française a ressenti l'injure. Et par la suite, il appelait toujours ce mauvais quatrain, mon mauvais quatrain, le talisman. Il en est question très souvent dans sa correspondance.
Alors précisément, cette correspondance donc, a débuté par un échange de poèmes.
Exactement.
Et comment s'est-elle développée par la suite ?
Eh bien, elle s'est développée sur deux plans. Apollinaire a répondu des lettres charmantes d'hommes du monde qui fait un peu de littérature. Et moi, je lui ai répondu sur un ton très camarade et il a compris. Il a été extrêmement gentil. Il m'a dit, mais le ton de notre correspondance, c'est vous qui le choisirez. Et nous avons correspondu alors en bons camarades, en bons amis. Et j'étais très contente de lui faire exprimer beaucoup de ses théories littéraires jusqu'au moment où j'ai eu la chance de le rencontrer une fois en passant à Paris. Il était déjà très abîmé. Il avait déjà subi deux trépanations. Et il portait ce bandeau noir dont nous avons tous parlé et qui nous a tous serré le cœur. Et nous nous retrouvâmes là, comme nous avions écrit, en très bons amis, au jardin du Luxembourg, à l'ombre de la fontaine. Et comme il me plaisantait toujours sur ma préciosité, il me disait, voilà, cette fontaine, vous la décrirez avec des festons et des astragales, et ce sera très bien. Et moi, je la décrirai avec des schémas géométriques, et ce sera très bien aussi, car l'essentiel en poésie, c'est d'avoir sa liberté complète. J'étais de son avis.
Quelle impression vous a-t-il fait à ce moment-là ?
Oh, la même que dans ses lettres, un très brave garçon. Beaucoup plus simple qu'on a voulu le peindre, mais tout à fait convaincu de son talent, de son autorité, et de la trace qu'il laisserait. Quand il a écrit plus tard « Homme de votre temps, de l'avenir, souvenez-vous de moi », c'était tout à fait son idée. Mais il le disait avec cette simplicité qui est beaucoup plus touchante qu'une fausse modestie. Quand je lui ai dit « Vous serez un chef d'école », il m'a répondu « Je le crois ».
Combien de temps a duré cette rencontre au Luxembourg ?
Oh, de 10h du matin à 2h30 du soir. Je l'ai raccompagné à la censure, où il était d'ailleurs proche de M. Paul Crouzet, et nous nous sommes dit au revoir. Il m'a dit « Ah, vous ferez des calligrammes, envoyez-les-moi ». Puis depuis, nous ne sommes pas revus. Nous avons continué à correspondre jusqu'à un mois à peu près avant sa mort, mais il était alors très touché.
Est-ce que vous avez gardé un vif souvenir de l'homme physique ? Quel est le portrait que vous pourriez tracer d'Apollinaire ?
Eh bien, c'était un gros garçon, avec un masque lourd, mais qui s'éclairait quand il souriait. Et il souriait avec beaucoup de, dirais-je, génie, beaucoup de grâce. Le masque un peu lourd devenait tout d'un coup quelque chose de humain, de fraternel, et de spirituel en même temps.
Accepteriez-vous de lire une ou deux lettres qu'Apollinaire vous a envoyées pendant la guerre ? Alors, la première lettre est datée de ?
Du 25 juillet 1916. « Ma chère petite marraine, je vous remercie de ne pas m'avoir oubliée. Je vais un peu mieux, mais je suis encore très fatiguée et ne peux guère écrire. J'ai été opérée deux fois et il me semble que ma trépanation du 9 mai et donné de bons résultats. Cette seconde trépanation avait été faite à l'hôpital italien du Quai d'Orsay. La première, qui n'avait pas suffi, ou qui avait été mal faite, était de Château-Thierry, quand on l'avait évacué. Et c'est de l'hôpital de Château-Thierry qui m'avait fait prévenir par son infirmier, en disant, toujours en plaisantant, que c'était que le talisman ne l'avait pas protégé, que donc je n'avais plus pensé à lui. Et voilà alors une autre lettre plus explicite. Pour le demeurant, je me suis réhabituée à la vie de Paris qui a peu changé pendant la guerre. Je suis encore très nerveux, irascible à l'excès. J'en ai, paraît-il, pour plus d'un an à me remettre du traumatisme capital qui a manqué me faire mourir. J'ai appris avec peine la blessure de Léonard, pourvu que son bras se remette et qu'on ne soit pas obligé de l'amputer. Au revoir, ma chère petite marraine. Votre filleul reconnaissant, Guillaume Apollinaire.
Un autre visage de femme a pris une place importante dans l'univers poétique et sentimental d'Apollinaire. C'est celui de celle qui deviendra la fiancée, Madeleine Pagès. Il l'a rencontrée dans des circonstances romanesques qu'elle-même nous a rapportées au début de Tendre comme le souvenir.
C'est dans le train qui me ramenait de Nice à Marseille que j'ai rencontré le 1er janvier 1915 Guillaume Apollinaire. Je venais de passer mes vacances de Noël à Nice, dans la famille de mon frère aîné, sous-lieutenant d'artillerie aux armées. Et je rentrais à Oran par le bateau qui partait de Marseille le soir même. Le Sidi Ibrahim, je crois. J'étais contente. Mes vacances avaient été bonnes. Ma valise était pleine de présents que je rapportais à ma mère, aux sœurs et aux petits frères qui m'attendaient. J'avais un joli chapeau dont j'étais très fière. Le matin était radieux. Prendre mon billet pour ce train de 8 heures, choisir un compartiment de seconde au beau milieu du wagon, tout cela m'avait paru facile et agréable. C'est donc avec assurance que j'y grimpais et que je plaçais ma valise dans le filet, un livre, un journal, un paquet de sandwichs à portée de ma main. En gare, seulement quelques employés qui faisaient leur service. Bien calé dans mon coin, je me préparais à jouir jusqu'à Marseille d'une bonne solitude. Quand un soldat entre dans mon compartiment, s'excuse vaguement en passant devant moi, et se penche à la portière pour parler à une dame qui l'accompagne. Est-ce un soldat ou un officier? Je n'ai jamais su reconnaître un grade. Il est grand, oui, plutôt grand, avec des jambes un peu courtes et un buste important. Il porte un képi trop petit rejeté en arrière. Voilà ma solitude à l'eau. J'ai envie de m'en aller dans le compartiment voisin. Mais comment partir sans me faire remarquer? Cependant, le soldat parle d'une voix douce. Des vers? Vous voulez lire des vers, dites-vous? Lisez donc Les fleurs du mal de Baudelaire. Il a bien dit Les fleurs du mal de Baudelaire? Je ne change pas de compartiment. Le train part. Il fait encore plus beau que tout à l'heure. Le wagon est bien chauffé. Je pense en souriant à ces petits objets qui sont dans ma valise et à la joie de mes sœurs en les découvrant. J'ai envie d'en parler à quelqu'un. Voilà la petite plage rose avec ses pins, où je suis venue avec mon frère au moment de son mariage l'année dernière. Voilà la mer, comme elle est belle. J'ai dû le dire tout haut. Le soldat quitte son coin, se rapproche de moi, et nous la regardons tous deux, unis tout d'un coup dans le même plaisir de la voir si belle et si bleue. Nous parlons de Nice que nous quittons et qu'il connaît mieux que moi. Je l'écoute avec étonnement me parler du vieux Nice, de ces maisons italiennes où flottent sur des cordes lancées d'une fenêtre à l'autre des étendards de haillons. Il me parle du marché, du paillon, des collinettes. J'aime bien sa voix un peu couverte et son profil, ses mains sans bague, aux gestes paresseux. Un rapide regard qu'il vient de me jeter me remplit d'essence.
Cette brève rencontre est à l'origine d'un échange amical qui se transformera bientôt en un échange passionné par correspondance. Les lettres d'Apollinaire, bientôt quotidiennes, nous rapporteront non seulement sa vie de soldat, mais également toutes les émotions de l'homme seul, de l'homme qui sent naître, éclater en lui un amour nouveau, avant le drame qui, en 1916, après la blessure, l'écartera de la jeune fille. De cette abondante correspondance, il est bien difficile de donner une image complète, totale. Cependant, une lettre que nous prenons au hasard nous représente assez bien le poète dans sa solitude militaire, pensant à la jeune fille qui est au loin, à Oran.
Vous êtes ma toute chérie, une fille délicieuse et une fée bien attentive, car vous avez deviné ce qui pouvait me faire le plus de plaisir. Cette eau de Cologne que j'attends comme votre fraîcheur même. Me mettre en colère maintenant que vous êtes à moi, jamais de la vie. Au contraire, je baise votre front et aussi ce pied et toute votre personne que mentionne votre lettre charmante. Je vous envoie de mon côté un porte-plume et une bague. La mesure est maintenant chez moi à Paris, mais je crois que la bague vous ira. Le porte-plume est fait avec deux balles boches. Je ne vous l'envoie que comme un souvenir et une curiosité, mais peut-être le trouverez-vous peu pratique.
Il suffit qu'il vous amuse un moment, il ne réclame rien d'autre. Pensez comme je suis heureux après vos lettres. Je voudrais pouvoir vous le dire et vous briser de caresses si douces que vous en perdriez tout souvenir de toute autre chose en ce monde. Ma chère petite sorcière jolie, rien de méchant jamais dans mes lettres. Je vous souhaite une bonne fête. Ma lettre arrivera sans doute vers la date, si elle vient plus tôt, tant mieux. Oui, parlez-moi de vous, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est même la seule affaire que j'ai. Vous êtes donc à moi, ma chérie, et moi je suis tout à vous. Vous voudriez bien que je vous obéisse, mais en tout cela, il n'y a que de la tendresse, et votre obéissance vis-à-vis de moi doit rester entière. Je veux que la suggestion où vous devez être soit tout amour et toute souffrance, pour que je puisse consoler la petite indomptée que je veux maîtriser. Car si je n'étais point votre maître avec toutes les prérogatives souveraines que peut conférer ce mot, je ne vous aimerais pas tant. Je veux que toujours toutes vos sensations s'éveillent tumultueuses sous mon regard dominateur. Sans quoi seriez-vous femme et moi homme, puisque l'égalité de l'esprit nous met sans doute sur un même rang. Nonobstant quoi, nous sommes si amis maintenant, ma chérie, que vous pouvez me parler de vous avec toute la liberté que possède votre chère âme. D'autre part, ma chérie, comprenez bien que s'il s'agit ici de domination, ce n'est point une simple galanterie, mais une réalité profonde et passionnée qui doit toucher l'imagination, l'âme, le corps, jusqu'au bout et jusqu'où peut le vouloir ma volonté. C'est ainsi que je vous veux, ma chérie, puisque vous êtes à moi. Je vous ai donné, d'autre part, la maîtrise de nos vies, de nos cœurs, durant la guerre, pour que vous les prépariez à la paix. J'ai encore une réponse à recevoir sur ce sujet. Je termine ma lettre parce que le vague-mestre va partir. Je baise vos jolies mains et votre front que j'adore. Guy.
Relativement à l'abri dans l'artillerie, Apollinaire aurait pu attendre tranquillement la fin de la guerre en pensant à ses projets d'avenir. Mais en novembre 1915, il profita de la possibilité qui était donnée aux sous-officiers d'artillerie de passer dans l'infanterie pour devenir sous-lieutenant dans cette arme. Sa vie fut alors complètement modifiée. Et il connut le dur enfer des tranchées, l'existence pénible de l'officier d'infanterie qui, beaucoup plus, il le note lui-même dans ses lettres, que l'officier d'artillerie est près des hommes et mène la même vie qu'eux. D'autant plus qu'il se trouve sur le front de Verdun à une période particulièrement violente et que l'unité à laquelle il appartient, le 96e, dont le recrutement et de la région de Carcassonne, que cette unité, dis-je, est mise à l'épreuve à de nombreuses reprises. Une éclaircie, cependant, dans cette vie pénible, la permission qu'il passera pour les fêtes de Noël et du Nouvel An à Oran, dans la famille de sa fiancée. Mais immédiatement, dès janvier, c'est le retour à une vie pénible, car lorsque l'on n'est pas en première ligne, on est à l'arrière et on est soumis à des manœuvres extrêmement dures. À Toulouse, j'ai pu rencontrer celui qui était alors le capitaine d'Apollinaire, un homme qui a rempli une longue carrière au service de l'État dans une grande administration et qui se souvient aujourd'hui de ce sous-lieutenant, un peu fantaisiste et cependant très consciencieux, qui était alors sous ses ordres. Il se souvient de ses fantaisies, il se souvient de son imagination, il se souvient également de ses préoccupations littéraires et il a pu me rapporter que c'était par exemple à la Popote que s'était élaborée une pièce qui devenait devenir plus tard les Mamelles de Tirésias. Il se souvient surtout, ce capitaine, de ce qu'a été alors la vie de son régiment, des disparitions successives d'hommes, de sous-officiers, d'officiers, et plus que tout, il se souvient du jour où, dans un calme relatif, celui-là dont nous parlions tout à l'heure, l'un des siens a été blessé. J'ai eu entre les mains une relique émouvante, l'agenda, le petit agenda sur lequel un commandant de compagnie notait les événements quotidiens et où, à la date du 14 mars 1916, on voit que le sous-lieutenant Guillaume de Kostrowitski, blessé à la tempe par un éclat d'obus, vient d'être évacué. Apollinaire mourra peu de temps avant l'armistice, le 9 novembre 1918, emporté par l'épidémie de grippe espagnole. Mais on peut bien dire que la blessure du 14 mars 1916 a déjà blessé mortellement, non pas seulement l'homme, mais également le poète. Un poète qui, dans les admirables œuvres que lui dicteront les derniers mois de sa vie, ne cessera de revenir à cette expérience de la guerre et à cette douloureuse expérience de la souffrance, celle qui fait de lui le poète à la tête étoilée.
Une belle Minerve est l'enfant de ma tête. Une étoile de sang me couronne à jamais. La raison est au fond, et le ciel est au fait du chef où dès longtemps, déesse, tu t'armais. C'est pourquoi, de mes mots, ce n'était pas le pire, ce trou presque mortel et qui s'est étoilé. Mais le secret malheur qui nourrit mon délire est bien plus grand qu'aucune âme ait jamais scellé. Et je porte avec moi cette ardente souffrance, comme le ver luisant tient son corps enflammé, comme au cœur du soldat il palpite la France, et comme au cœur du lys le pollen parfumé.
C'était Le poète au front étoilé, Guillaume Apollinaire sur le front de Verdun. Une émission de Michel Descaudin, réalisée par Jacques Toulza. Avec le poète Georges Martin, la poétesse Jeanne-Yves Blanc, l'écrivain Jacques-Frédéric Temple et les lectures de Michel Auradou et Noël Verriac. Première diffusion, le 28 juin 1966.